Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International dans notre studio pour évoquer évidemment ce qui se passe autour de notre planète football. Et nous reviendrons aux choses sérieuses. Retour au championnat domestique pour les footballeurs. Et demain soir, le PSG recevra le SCO d'Angers sans ses internationaux, ce qui peut être logique, mais toujours sans Sergio Ramos. Car à Paris, les blessés se soignent longtemps. Sergio Ramos, Juan Bernat et peut-être bientôt Keylor Navas. Le fonds saoudien, désormais propriétaire d'un club de Première Ligue, va-t-il étendre sa présence à d'autres championnats à travers d'autres clubs? Une sorte de galaxie comme l'a déjà fait Manchester City, faut-il le souhaiter ou le craindre? Remontada, un mot encore accroché au crampon du PSG, comme une enclume dont ce club ambitieux ne se défait pas malgré des exploits les années suivantes. En plus, il y a d'autres exemples. Tout cela fait l'objet d'un livre, Remontada, tout simplement, écrit en travers sur la page et signé Shérif Guémour. Bonjour Shérif Guémour.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Merci d'être là. Ce livre est préfacé par Didier Roustan, publié aux éditions Larousse. Et effectivement, je crois que ça lui plaît le petit piment à coller au mot Remontada. Et nous en parlerons et nous reviendrons sur d'autres exemples que vous citez dans ce livre. Il y en a une vingtaine, hein. Vous nous rafraîchirez la mémoire pour certains. Bonjour Karine Galli.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien?
De retour de Marseille, j'ai vu un match des héros et surtout j'ai vu des anciens joueurs qui eux me faisaient vibrer à l'époque, vous voyez. Et ça change beaucoup de choses.
Ouais. Et ça s'est bien passé.
C'était très bien, il y a eu un score fleuve, il y a eu 11 000 euros en plus de récolter, Didier Drogba, la star de la soirée, a marqué un triplé, bref, tout était réuni.
30 000 personnes dans le Vélodrome pour voir des stars.
Une team UNICEF et une team OM, et effectivement c'était des stars majoritairement évidemment des footballeurs, mais il y avait aussi des sportifs comme Tony Parker, ou Teddy Riner, ou Pierre Gasly, donc il y avait un beau casting.
Une bonne ambiance. Bon, voilà, comme quoi autour du foot on peut aussi faire la fête.
Il y avait les gens de Génération Foot qui m'ont dit « embrasse toute l'équipe d'RFI
». Il paraît que vous êtes une star au Sénégal maintenant.
Bon, je leur ai demandé de m'inviter au Sénégal pour être totalement honnête, et ils m'ont dit « oui, on vous aime beaucoup ». De là à dire une star au Sénégal, vous emballez Annie, mais j'attends l'invitation, je leur ai dit ça.
On vous emmènera un jour. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous.
David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. Le Parlement français l'a décidé. Désormais, le 5 mai, il n'y aura plus de match de football professionnel. Cette décision a été prise 29 ans après le drame qui s'est produit avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France dans le stade de Furiani en Corse. Ce match Bastia-OM n'a jamais eu lieu. Souvenez-vous d'ailleurs le témoignage d'un confrère de l'A2, d'Antenne 2 comme on disait alors, de France 2, Claude Samper, qui était au match et avait vu la tribune provisoire s'écrouler.
La fête du football ce soir à Bastia vient de basculer dans l'horreur. Il y a quelques minutes, vous l'avez vu dans le reportage, on vous montrait cette grande tribune qui a été installée dans la précipitation ces derniers jours. C'est une tribune avec 10 000 places supplémentaires. Et à 10 minutes du coup d'envoi, cette tribune, une partie de cette tribune vient de s'effondrer. Pour le moment, vous l'entendez peut-être, le plan rouge a été déclenché, le SAMU est sur place, les secours interviennent. Il est impossible de dire pour le moment combien de personnes se trouvent actuellement blessées ou décédé. En tous les cas, c'est vraiment l'horreur qui vient de se passer ici il y a quelques minutes. Mais encore une fois, pour le moment, je suis incapable de vous dire combien de personnes se trouvent blessées ou décédées.
Eh bien, l'horreur, ce jour-là, c'était 19 morts et 2300 blessés qui s'expriment aujourd'hui encore à travers un collectif. Il y a eu beaucoup de traumatismes, beaucoup de gens traumatisés, beaucoup aussi de blessés qui ont eu du mal à se remettre. On pense à notre collègue Jean-Marie Lanoué, que vous avez longtemps entendu ici et qui était l'un des survivants de cette nuit effroyable où Basile Boli l'avait beaucoup aidé. On va écouter, nous, Gilles Verdez, notre confrère, ami de Radio Foot, s'exprimer au sujet de cette décision, enfin, et le maître mot de son intervention.
Un immense soulagement. J'aurais parlé de satisfaction si cette décision avait été prise des années plus tôt. Mais là, on a tellement attendu et il a fallu que le collectif se batte pendant tellement longtemps que c'est juste un soulagement. Enfin, enfin, on va geler. Moi, j'emploie le terme sanctuariser cette date. On ne jouera plus au football, jamais, je l'espère, le 5 mai. Et c'est un geste qui honore la mémoire, non seulement de toutes les victimes de cette catastrophe, mais que ce soit en Corse ou en métropole, ça honore pour moi la mémoire de toutes les victimes de catastrophes. Ça dépasse le 5 mai. Cette date du 5 mai, elle est la date des victimes, de ceux qui ont souffert. Eh bien, aujourd'hui, pourront se recueillir le 5 mai, Annie.
Cela fait 29 ans que s'est produite cette catastrophe dans ce stade de Furiani. Est-ce que ça a encore un sens ?
Ça a vraiment un sens de sanctuariser cette date, parce que pour les victimes, notamment pour tout le peuple corse, mais le peuple corse, c'est la France, bien évidemment. Donc, pour toute la France, cette date, elle est synonyme de catastrophe, de 19 morts, de plus de 2000 blessés, de gens qui souffrent, de gens qui n'arrivent pas à se reconstruire, justement parce qu'en jouant au football, parfois le 5 mai, on foulait aux pieds leur mémoire. On ne prenait pas leur douleur en compte. Enfin, on sanctuarise. Enfin, on reconnaît non seulement que cette date doit être impropre à la pratique du football, mais aussi à travers cette sanctuarisation, pour moi, il y a la reconnaissance implicite de la responsabilité de toute la France, parce que ce sont des autorités, y compris de l'État, qui avaient autorisé des décisions aberrantes, des décisions condamnables. Donc aujourd'hui, toute la chaîne de responsabilité est établie, la douleur est reconnue, je dis enfin.
La douleur est reconnue, cependant, est-ce que vous n'êtes pas déçu peut-être que ce soit à travers le canal politique et à travers le Parlement qu'on sacralise cette date et non pas une décision de ceux qui dirigent le football français ou la Fédération française ou la Ligue professionnelle qui organise les championnats et la Coupe de France ?
Depuis le premier jour de la catastrophe, le football français n'a pas été à la hauteur. Il y avait une finale de Coupe d'Europe au loin, on a l'impression qu'elle était plus importante ou qu'il fallait absolument la maintenir malgré la douleur des victimes de la catastrophe de Furiani. Donc le football français, sur ce point-là, je n'en attendais rien, je n'en ai jamais rien attendu et je n'en attendrai jamais rien. Donc il fallait que le pouvoir politique, qui reconnaît la responsabilité de toute la France, prenne des décisions. Enfin, elle est prise grâce au Parlement. Ça a attendu, ça a pris des années. Mais en France, parfois, la reconnaissance de la mémoire collective, de la mémoire des victimes, elle est longue à venir. Mieux vaut tard que jamais, et je me félicite de cette décision, même si elle est tardive.
Mieux vaut tard que jamais, nous dit Gilles Verdez. Salim Boumgali, on se souvient un peu tous hein, de cette nuit terrible, et surtout les gens qu'on a pu croiser, il y avait beaucoup de confrères dans Absolument. Cette tribune provisoire en plus.
Absolument, c'est vrai que chacun d'entre nous, nous avons nos vécus dans différentes rédactions. Moi, lorsque je suis passé par la maison RTL, à RTL, l'un des journalistes qui était à Furiani ce jour-là, et bien des mois après, il est retourné là-bas et s'est suicidé. Parce que il s'est suicidé effectivement parce que il avait toujours cette douleur en tête, ces images qu'il avait pu voir et ces horreurs qu'il a pu voir. Et effectivement, de se dire que enfin, et Gilles Verdez l'a dit, que cette date soit sanctuarisée, effectivement, que on ne joue plus, effectivement, par respect, ça paraît tellement évident. En fait, ce qui paraît aberrant, en revanche, c'est de devoir légiférer, que ce soit pas dès la base, en fait, que la Ligue, très régulièrement, vous savez, lorsque les calendriers sortent chaque saison,
Exactement.
On voyait qu'il y avait des matchs de Ligue 2, voire des matchs de Ligue 1 qui étaient programmés le 5 mai. Il y a eu une année même où il y a eu un Bastia-Ajaccio qui a été programmé à 5 mai. On se dit, mais ils sont débiles ou quoi? Non, on doit pas le jouer. Ça doit être, justement, on doit se souvenir. Il y a des dates dont on doit se souvenir pour faire comprendre aux gens. Il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire, de construire une tribune comme ça en quelques jours pour avoir plus de billets, plus d'argent, tout simplement. Il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire.
Chérif, il faisait allusion à un match européen qui se disputait en fait le lendemain à Lisbonne et qui concernait un club français. C'était Werder Bremen contre Monaco. Et ça avait été aussi un traumatisme pour ces joueurs-là.
Bah, les joueurs sont arrivés à Lisbonne parce que la finale avait lieu au Portugal et ils ont attendu. Bon, déjà, ils étaient choqués, évidemment. Monaco était finaliste. Ils attendaient le finaliste du match Bastia-OM.
Donc une finale qui n'aura jamais lieu. Hein. Cette année-là, la Coupe de France, quand même, n'a jamais été remise. Oui, on voit, vous qui avez écrit un livre sur l'histoire de la Coupe de France, le palmarès est vide.
C'est pour ça que ça a marqué à la fois le peuple français et la France du foot. Donc les joueurs monégasques, ils attendaient leur adversaire pour la finale de la Coupe de France. Donc bah oui, ils étaient... Et ils ont attendu tout l'après-midi, en fait. Le match avait lieu le lendemain, la finale contre le Werder. Ils ont attendu tout l'après-midi. Ils avaient pas du tout le cœur à le jouer. Donc, on a discuté, Manuel Petit, moi, j'ai eu Claude Puel qui m'en avait parlé. Donc, ils ont perdu cette finale. Alors, Maintenant, pour cette sanctuarisation du match, c'était une forte demande du peuple corse. Le peuple corse fait partie de la République. Et la République était impliquée dans le sens où c'était la FFF, la Coupe de France, qui l'organise. Donc, fallait faire un geste. Ça a pris du temps. C'est fait. Ça apaise les esprits. C'est sanctuarisé. Et puis, voilà, on n'a pas sanctuarisé non plus 15 dates du calendrier. Oui. C'est une date unique. Puis, comme disait Gilles Verdez, ça sera la date des victimes. Et puis, voilà, on se recueille.
Karine ?
Oui, oui, de toute façon, c'est la plus grande tragédie du football français. Et ce qui est dingue, c'est, comme le rappelait Salim, c'est que chaque année, il y avait une nouvelle polémique parce que très souvent, il y avait des matchs qui tombaient à cette date-là. Et 29 ans pour se battre pour ça, c'est dingue. C'est-à-dire que ça aurait dû être acté très rapidement. Et chaque année, il y avait évidemment le deuil des familles, mais cette volonté de se battre pour faire comprendre aux autorités qu'il ne fallait pas jouer. Et c'est terrible, c'est qu'en France, on met 29 ans pour arriver à une évidence, parce que voilà, à partir du moment où il y avait eu cette tragédie, tout de suite, ça devait être stoppé et être un jour de recueillement et pas un jour de match de foot éventuel.
Et de voir de fêtes autour du football, exactement. Et désormais, eh bien, on pourra regarder la publication du calendrier de la LFP chaque année en se disant qu'on est sûr que le 5 mai, aucun match ne sera joué.
Siempre vi. En el límite de lo prohibido, y si no fuera por los que han estado contigo, hoy no tendría rumbo, sería como un barco perdido. Solo quiero explicarle aquello que todos desconocen de lo que ha sido y era. Si va andando, dicen que va en coche, porque la mala lengua siente coraje que tú seas noble.
Il chante bien, mais on a envie de lui dire « Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant ». Vous savez qui chante oui, voilà.
C'était des chants andalous.
Voilà, il chante mieux qu'il joue, hein.
Il sait tout faire, bien. Dis donc.
Ouais, c'est incroyable. Hein.
Je suis totalement fan. Il savait tout faire, peut-être. Le PSG est le premier à reprendre le championnat de France demain soir en recevant au Parc des Princes le SCO d'Angers, jouera donc encore sans lui, sans Sergio Ramos. Ce ne sera pas le seul absent. Alors certes, Kylian Mbappé, lui, l'international, est déjà là, mais on sait pourquoi, ils ont fini avant. Mais 7 autres joueurs seront absents, surtout les Sud-Américains qui jouent encore la nuit prochaine. On pense à Neymar et Marquinhos et aussi Messi, Paredes ou encore Di Maria. Cela, on va dire qu'ils ont un mot d'excuse, hein, si on peut dire ça. Mais le cas qui intrigue, c'est évidemment celui de Sergio Ramos, arrivé comme une recrue star. L'ex-défenseur du Real Madrid a débarqué, on s'en souvient, tout sourire avec toute la famille au début du mois de juillet. Numéro 4, il a signé son contrat. C'est un contrat assez juteux, on peut dire. 15 millions par année, il y a 2 ans. Alors, c'est amusant, sur Foot Mercato, quel site? Bon, enfin bref, on a 15 millions. Oui, Transfermarket, pardon, c'est plutôt
c'est
ça.
Spécialiste.
15 millions par année, 1,3 million par mois, 292 000 par semaine et 42 000 par jour.
Ça va!
Mais il ne joue pas.
42 000 par jour.
Alors, il passe ses journées quand même à l'entraînement, mais individualisé. Il essaye de se remettre en forme. Il est toujours blessé. En tout cas, c'est ce qu'a confirmé Mauricio Pochettino tout à l'heure au micro de Simon Bourtembourg. Il demande, en fait, Pochettino, de la patience.
No tengo duda que va poder encontrar otra vez su mejor nivel.
Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il retrouve son meilleur niveau. Après, il est certain qu'un joueur de foot aime toujours jouer. Sergio Ramos est dans une situation désagréable. Il n'a pas la possibilité de jouer et il ne peut pas s'entraîner avec ses coéquipiers depuis un long moment. Il souffre, mais c'est quelqu'un de fort mentalement. Le staff médical et le club l'aident à rester au haut niveau et le motivent pour qu'il revienne après ses problèmes.
Alors, de la patience, eh bien, le PSG semble en avoir besoin, autant qu'il a besoin de lui d'ailleurs. Karine, on savait quand même quand il est arrivé, on nous dit officiellement la blessure date de fin juillet, donc il était déjà sous contrat du PSG.
Quelle blessure ?
Mais il n'a joué, quelle blessure ? Oui, déjà, c'est peut-être la première bonne question, mais en plus, l'année dernière, il n'a joué que 21 matchs pour le Real Madrid. On savait qu'il était un peu sur une jambe. Il y avait des rumeurs comme quoi il avait une grosse blessure au genou et tout ça. C'est quand même... Il a été exclu de la Roja, il n'a pas joué l'Euro. Est-ce que c'est un peu bizarre tout ce qui se passe autour de Sergio Ramos?
Mais après, il y a deux camps qui s'affrontent. Déjà, moi, je suis totalement fan de Sergio Ramos, donc je ne serai pas forcément très objective.
Aussi.
Et je pense que c'était une très bonne chose pour le club.
C'était un des meilleurs buteurs, on s'en souvient, certaines saisons de son
Absolument.
Club du Real.
Bien sûr, il a marqué énormément de buts également en sélection nationale. Après, il y avait deux courants. Il y avait le Real Madrid qui disait on a décidé d'arrêter parce qu'il a 35 ans, on ne voulait pas lui offrir 2 ans de contrat et parce qu'en plus, c'était un des tauliers du vestiaire. Il y avait les problèmes de.
Et qui coûtaient cher.
De joueurs qui devaient un petit peu réduire leur salaire.
Et
lui, il était à la tête de ça, il avait refusé. Et maintenant, le Real Madrid dit en fait, on n'en a plus voulu parce qu'en fait, les cartilages de son genou sont cuits
Fichu.
Et en fait, c'est le PSG qui se fait bananer. La réalité entre les deux, on ne la sait pas totalement. Mais honnêtement, Sergio Ramos, c'est un joueur qui a eu une carrière immense, qui a très rarement été blessé et qui avait une hygiène de vie et qui a toujours une hygiène de vie incroyable. Évidemment que là, ça devient compliqué et il y a des spéculations parce que chaque semaine, on nous explique qu'il va être dans le groupe et puis chaque semaine, il n'est pas dans le groupe. Après, moi, je reste positif, parce que je vous ai dit, je ne suis pas très objectif avec Sergio Ramos. Et surtout, je me moque que Sergio Ramos soit disponible en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. S'il est là pour février, mars, avril, c'est-à-dire là où il est le meilleur, là où il marque les buts décisifs, comme il a toujours fait avec la Roja et avec le Real Madrid, le PSG sera aussi ravi. Mais c'est sûr qu'on est un petit peu inquiet. Mais j'y crois toujours. Et je pense qu'il va faire un retour exceptionnel pour bien, en plus, carrer Florentino Pérez.
Son corps, vous en parlez, il en prend énormément soin et c'est d'ailleurs l'objet d'un documentaire d'une dizaine de minutes qui est sur YouTube qui s'appelle La légende de Sergio Ramos. Voici un extrait quand il parle de sa pièce maîtresse qu'est son physique.
C'est mon challenge, c'est une bataille personnelle contre moi-même. Tu gagnes et tu grandis, et quand tu deviens plus vieux, chaque jour devient plus difficile. S'entraîner, prendre soin de soi... Et tout ça. Et c'est une lutte contre mon âge et contre mon corps. Pour l'instant, je la gagne, mais j'espère pouvoir la gagner pendant quelques années encore. Je me suis habitué à souffrir. Et quand tu sais que souffrir, c'est bon, moi, toi, nous le faisons en souriant. Toutes ces souffrances que tu dois endurer en t'entraînant, ça sert à quelque chose à la fin. C'est comme ça que je vois le sport. Et j'aimerais être là autant d'années que possible. Et à mon âge, je dois rester en forme. Je dois faire tout ça pour rester à mon meilleur niveau. Sinon, je me serais retiré il y a quelques années, où j'aurais joué à un autre niveau qui ne me correspond pas.
Bon, apparemment, il n'a pas encore annoncé qu'il se retirait pour des raisons physiques. Mais c'est vrai aussi, chérie, vous souleviez cette question. Peut-être qu'on ne sait pas bien non plus de quoi il souffre.
Bah, c'est contradictoire.
Là, actuellement, on nous parle de mollet.
Ah voilà, parce qu'on parle de mollet.
Alors, ça redescend avant voilà, ses genoux. Non, là.
Le mollet, c'est sérieux. Il y a une lésion. La lésion s'est rétractée. Enfin, et puis après, on parle du cartilage. Mais le cartilage, c'est pas la même chose. Le cartilage au niveau des genoux, on joue plus au ballon. Ça, c'est concret. Donc, inquiet un peu quand même, si c'est le cartilage du genou.
Parce qu'il ne fait pas les entraînements collectifs, c'est-à-dire qu'il ne touche pas le ballon. Juste
et puis, le Real, bon, on a fait passer ça un peu pour des négociations salariales avortées, des questions d'argent, mais peut-être qu'eux, ils savaient qu'il était vraiment atteint. Et ces dernières années, il était de plus en plus souvent blessé.
Et 21 matchs la saison dernière, c'est la moitié de ce que joue le Real Madrid.
Sauf que la saison 2020, c'est lui et Benzema qui font gagner le titre de champion d'Espagne au Real, parce qu'après le Covid, il est incroyable. C'est lui qui marque les buts
avec Benzema. C'est le drame de Ramos. Il n'arrête pas de gagner. Donc quand on n'arrête pas de gagner, on a envie de jouer. On revient avant la date de guérison. Alors, est-ce que c'est le club, est-ce que c'est lui, on ne sait pas. Mais mettez-vous à sa place. Il est dans les deux meilleures équipes du monde, enfin l'équipe d'Espagne et l'équipe du Real. Il peut pas s'arrêter. Sauf qu'à un moment, le corps dit stop et le corps est peut-être en train de dire stop.
Karine évoquait la qualité du joueur et le joueur exceptionnel que c'est. Évidemment, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus quand il est en forme. Et puis sa carrière et son palmarès parlent pour lui en fait.
Le plus grand de ses 15 dernières années.
C'est absolument à son poste. Il y a pas de problème là-dessus. Sauf que tu disais Karine, mais moi je veux le voir en février, mars, avril, sous-entendu dans les matchs qui comptent. Ouais, mais ce serait bien de le voir, ne serait-ce qu'un peu avant, pour commencer quand même à être justement dans ces matchs qui comptent. Le problème, c'est que là, on est déjà en octobre, mi-octobre. L'équipe se met en place. Un entraînement.
L'équipe se met en place.
Absolument.
Bon, donc, enfin, on est en train de mettre en place. Imaginons que Kimpembe saute de la défense centrale, ça serait pas impossible non plus.
Absolument. Mais c'est là où ça devient inquiétant quand même, parce que Ramos, encore une fois, on va déjà voir s'il va réussir à s'intégrer pleinement. Je parle pas du leadership, je parle même du lien qu'il aura avec ses autres défenseurs, du système de jeu. Donc déjà, qui se met en place avec ses coéquipiers, etc., ça prend du temps. Enfin, pardon, moi j'ai quelques inquiétudes le concernant en tout cas.
Il y a du temps.
Mais non, il faut être à 100%. C'est pas il faut être à 100%. C'est le PSG, t'as des échéances.
D'ici février, on a encore un peu d'espoir. Moi, j'ai de l'espoir.
Exclure quand même.
Je suis pas médecin.
Salim, on peut se demander si le PSG a pas été, parce que c'était bien avant l'histoire Messi. Est-ce que ils ont pas été un peu trop rapides en se disant on a une star,
voilà
dans nos rangs.
Il était
d'ailleurs,
libre, on rappelle.
Le maillot se vend. Oui, donc ça veut dire que mais ce côté un peu people qu'aime aussi avoir le Paris Saint-Germain.
Après le côté strass que vous évoquez, Ramos, quand vous pouvez avoir Sergio Ramos dans votre club. On l'a dit, l'un des meilleurs défenseurs de ces 15 dernières années, et même à son poste, tout simplement dans l'histoire du football, il fait partie des meilleurs. Donc forcément, ça intéresse. Et de l'autre côté, encore une fois, quand vous avez en revanche un PSG qui a quand même un staff médical important, avec des tests importants, quoi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment vu la blessure, ou ils l'ont mal comprise, ou se sont dit « ça va se soigner rapidement », c'est ça aussi que j'arrive pas à comprendre, moi, à mon niveau. C'est parce qu'ils ne savaient pas que ça lui durerait aussi longtemps, c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
La cellule médicale du PSG a été fortement remise en question ces
dernières
saisons.
Depuis
longtemps, oui. Oui, c'est récurrent.
Le cas Bernat, d'ailleurs.
Parce qu'on a vu quand même qu'il y a des joueurs qui sont très fréquemment blessés au PSG, et il y a eu des tensions en interne, il y a eu aussi des changements, parce que parfois on voyait que des joueurs clairement ne faisaient pas confiance aux décisions du staff
Neymar,
médical du PSG, et qui allaient voir plutôt leur propre médecin.
Voilà.
Mais après, Sergio Ramos, moi je trouve qu'on ne peut pas blâmer le PSG de le prendre, parce que c'est l'incarnation de ce qui manquait au PSG. Et quand tu l'as la main libre, tu te dis, attendez, nous ça fait des années qu'on nous explique qu'on a peut-être un manque de leadership, qu'on n'arrive pas à être concentré, focus sur tous les matchs, que ça soit les îles Féroé, une
finale. S'il commence à jouer qu'au mois de mars.
Oui, mais sauf qu'à la base, quand le PSG le prend, Sergio Ramos, il est déterminé, investi sur tous les matchs, que ça soit un match de D4 espagnol ou une finale de Ligue des Champions. Et c'est quelqu'un qui, sur le terrain, faisait grandir ses partenaires.
Oui, mais sauf qu'il
n'a
pas joué, quand ils le font venir, il n'a pas joué déjà depuis plusieurs semaines et il ne fait pas l'Euro.
Non, mais d'accord, mais des joueurs qui ont une saison quasiment blanche, lui, c'est quasiment ça, et qui reviennent, il y en a eu. Donc, on peut pas blâmer.
Je sens votre optimisme, Karim.
Mais c'est vrai qu'il y a un mot qu'on évoquait souvent au PSG en disant, il manque de vice au PSG. Sous-entendu, ce petit truc qui manquait depuis le départ de Thiago Motta. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Sergio Ramos, on se disait, au-delà du vice, enfin, au-delà de la qualité, plutôt, c'est plutôt l'inverse, il y a aussi ce petit vice, ce petit truc qui manquait avec des défenseurs parfois trop gentils. Donc, c'est vrai que sur le papier, ça paraissait idéal, sauf que le physique suit pas.
Mais pour que Ramos soit écouté, il faut qu'il soit sur le terrain et qu'il soit à 100%, parce que sinon, on sait, de toute façon, c'est une meute de loups. Donc, si le loup, il est à moitié blessé, personne ne l'écoute. Il se fait bouffer.
On pense aussi à Juan Bernat. Juan Bernat, son dernier match, c'est le 16 septembre 2020.
Mystère.
À Metz.
Ah ouais, là, c'est...
Genou gauche, ligament croisé, donc c'est évidemment une des pires blessures pour un joueur. Et depuis, c'est pareil, pas de réapparition, ça va faire un an. A fait plus d'un an.
Là, après, c'est aussi la communication du PSG. Bon, on évoquait ce staff médical qui est peut-être défaillant sur certains points, mais souvent, Bernat, c'est « Ah, il va pas tarder à revenir ». Même Pochettino, le disait assez régulièrement en conf de presse, « ça va pas tarder », etc. Donc, on ne cesse de l'entendre. Quand on l'a vu qu'il n'était plus, finalement, sur les listes des joueurs qui pouvaient jouer à la Ligue des Champions, au final, il va vraiment pas revenir de suite. Et à chaque match de Ligue 1, il va revenir prochainement. On est mi-octobre, il y a toujours rien.
Le problème, c'est que ça paralyse le recrutement. Ou alors on déplace des joueurs, on va mettre Diallo à gauche, alors qu'à la base c'est un défenseur axial, et c'est toujours comme ça. Là on est en train de bricoler, mais au bout d'un moment
là c'est pour ça qu'ils ont pris Nuno Mendes au final. Mais
là, par contre, ça c'est un vrai choix.
Ouais.
Tu vois, là, c'est un peu, tu te dis, là, bon, ils ont tranché, là.
Absolument.
Keylor Navas, on se demande aussi s'il est pas, s'il s'est pas blessé pendant Costa Rica États-Unis. Là, c'était le match la nuit dernière, perdu par le Costa Rica, mais il est sorti et. Aussi, alors là, bon, il n'était pas prévu sur le match, alors du coup, on n'a pas trop de nouvelles.
Mais oui, c'est ça. Bon, pour le coup, effectivement,
il y a Donnarumma.
Il n'y a pas trop d'informations. Après, c'est peut-être le seul endroit ou le seul poste où il y a moins d'inquiétude, parce qu'on se dit qu'il y a toujours Gigi Donnarumma qui peut dépanner si Keylor Navas n'est pas là, à la limite.
Il peut dépanner, effectivement.
Dépanner. Et c'est pas mal quand même. Hein, vous n'avez pas Navas, vous avez Donnarumma.
Un chaque mi-temps. Tu gagnes la Ligue des Champions.
Ah, ça peut être pas mal, ça. C'est vrai.
Ou un pour la séance de tir au but, ça se fait de plus en plus.
Oui, c'est vrai.
Oui, ça devient la mode. Allez, on continue, on va vers l'Angleterre, Salim.
Avec plaisir.
Newcastle a trouvé son prince. Bienvenue dans le football anglais 2021. Le club de Newcastle se hisse parmi les plus riches comme Manchester City et le PSG.
No, it's not just a football club, it's a way of life.
Une parodie hein, de la chanson du club Newcastle, parce qu'il y a un nouveau pavillon qui flotte sur ce club, les Magpies, les Pies du Nord de l'Angleterre, obéiront désormais à leur actionnaire milliardaire, le fonds saoudien, alors c'est PIF, la définition, Public Investment Fund, c'est ça, dirigé par le prince héritier surnommé MBS, c'est-à-dire le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Pour la plus grande joie des supporters, ils ont fêté ça par milliers dans les rues devant le siège du club jeudi dernier.
J'ai cru un moment que Newcastle ait gagné le championnat. Hein. Sur le coup, quand il y a eu cette annonce, c'était incroyable. Les festivités autour de St James Park, c'est des festivités de fête de titre. C'est alors qu'ils ont un nouvel investisseur, comme quoi, hein,
et qu'ils sont derniers du championnat.
Et avant dernier pour être précis, mais effectivement, Newcastle sort d'une période si noire, avec notamment le dirigeant qui ne l'est plus, donc Mike Ashley qui est parti. Mike Ashley, il est resté 14 ans comme propriétaire de Newcastle, il était détesté par les supporters, malgré les dépenses qui étaient faites, pas toujours d'ailleurs, détesté par les supporters, détesté par le public anglais aussi, puisqu'il a Il est également à la tête d'un grand magasin en Angleterre où il a licencié énormément ces dernières années. Donc bref, quelqu'un qui n'est pas du tout apprécié, qui est parti de Newcastle, les supporters en sont très heureux.
Alors ils ont gagné donc un autre investisseur, un autre actionnaire. Et ça, eh bien, ça a plutôt rendu électrique, je dirais, Human Rights Watch, oui, qui est une ONG qui s'occupe des droits humains et aussi Amnesty International. Alors Human Rights Watch a demandé audience au directeur général de la Première Ligue, alors que Amnesty International avait posé une question et la Première Ligue affirmait avoir reçu des garanties légalement contraignantes que le Royaume d'Arabie Saoudite ne contrôlerait pas ce club de Newcastle United.
C'est une fausse.
Est-ce que ça fait toujours des remous en Angleterre, ce rachat, Salim ?
Oui, on continue d'en parler tous les jours dans la presse, que ce soit le Guardian qu'on lisait tout à l'heure avec des collègues. Tous les jours, il y a des articles sur ça. En attendant, le premier match d'ailleurs de Newcastle, ce sera dimanche face à Tottenham. On continuera d'en parler. D'ailleurs, on va aussi petit à petit en parler au niveau du mercato, du banc. Steve Bruce qui est sur le banc, son contrat qui se termine dans 8 mois. Est-ce qu'il va rester vraiment 8 mois sur ce banc ou est-ce qu'il va être évincé avant ? Ça fera partie de ces interrogations.
C'est l'entraîneur. Hein.
Absolument. On parle déjà, on anticipe un petit peu le mercato hivernal. Plusieurs titres anglais parlent potentiellement de plus de 200 millions d'euros qui seraient mis sur la table dès cet hiver pour renforcer Newcastle. Voilà, ouais, exactement.
Faut pas qu'ils descendent.
Donc vous comprenez pourquoi les fans de Newcastle sont contents. Mais avant de parler du sportif, effectivement, il y a le contexte et le contexte politique, géopolitique que vous avez évoqué. Oui, on continue d'en parler. Et c'est vrai que en Angleterre, ça fait ça titille parce que autant lorsque City est arrivé à la tête de Abu Dhabi à la tête de City en 2008, ça n'avait pas fait autant parler parce qu'au contraire, c'était un Thaïlandais qui partait et en plus un Thaïlandais qui avait beaucoup de problèmes politiques et qui était remplacé par quelqu'un qui voulait relancer Manchester City, c'était mieux apprécié. Alors que là aujourd'hui, ça fait beaucoup parler. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'affaires aussi, la guerre civile au Yémen, le cas Jamal Khashoggi et tant d'autres qui font qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite est peut-être moins appréciée que d'autres pays.
Et puis il y a aussi peut-être, Chérif, l'exemple du Qatar où on voit un peu ces états, clubs et États qui finalement ont des fonds sans limite et qui du coup, alors je dis pas qu'ils s'achètent des trophées, hein, c'est pas le cas du tout, mais en tout cas qu'ils s'achètent des équipes et des stars à gogo où le fair-play financier n'a plus véritablement son rôle.
Tout ça, de toute façon, tout ce qui vient du Golfe, des pays du Golfe, on achète de l'influence, c'est ce qu'on appelle le soft power.
Oui. Et la vitrine. On achète une image, une vitrine, oui.
La vitrine la plus éclairante, c'est la Première Ligue, le championnat d'Angleterre qui est le plus diffusé, c'est le plus populaire au monde. Mais en fait, c'est un faux problème, c'est que la Première Ligue n'a que faire des droits de l'homme, des
absolument
tortures. Ils font entrer absolument
l'argent.
Qui ils veulent. Mais quand on écoute Scudamore, je ne sais plus s'il est encore président de la Première Ligue, lui, c'est le spectacle et le business. Les fonds, ils s'en moquent complètement. Mais tu parlais tout à l'heure du repreneur, la Manchester City. Mais avant, il y avait des oligarques russes. Et il y en a qui n'étaient pas très recommandables. Guédamac à Portsmouth.
Absolument, t'as raison.
Je te rappelle. Donc, on ferme les yeux là-dessus. La vraie question, il faut la poser au gouvernement anglais. Et alors là, c'est les gouvernements anglais. Mais peu importe la couleur. Hein. C'est pas parce que c'est Boris Johnson, c'est parce que c'est travailliste, conservateur. C'est eux qui donnent le feu vert à ce genre d'investisseur. C'est un investisseur, en effet, au niveau des droits de l'homme, qui est absolument pas recommandable. Mais on a d'abord, c'est le Downing Street qui a donné le feu vert. Ensuite, la Première Ligue, elle se moque. Genre, bon, il se trouve qu'il y avait un feu vert. Mais de toute façon, elle aurait quand même approuvé la venue de n'importe quel investisseur.
Juste, je précise une chose. À la base, cet investisseur saoudien voulait arriver à Newcastle la saison dernière. Hein. C'était l'été 2020. Et ils avaient déjà fait une offre à la même, au même niveau, hein, niveau, niveau prix, etc. Mais à l'époque, ça avait été refusé. On en revient toujours à l'argent. Je vous rappelle, il y avait cette fameuse chaîne pirate qui s'appelait Be Out Q, qui était d'origine saoudienne et qui était là dans la région du Golfe pour pirater le signal de Be In Sport, qui était dans la région de Qatari, d'Arabie Saoudite, etc., qui était diffuseur de la Première Ligue. Imaginez un instant que la Première Ligue dise « Ok, Arabie Saoudite, vous pouvez venir investir dans notre pays, dans notre championnat, alors que vous-même, vous êtes en train de gêner, via un piratage quasi officiel, la diffusion de notre championnat dans cette zone-là. »
On a revendu.
Ça avait été donc interdit, sauf que là, le Be Out Q est quasi mort désormais, puisque ça se réchauffe de plus en plus entre l'Arabie Saoudite et le Qatar.
On est dans le business.
Donc, comme cette chaîne est terminée, comme l'argent revient comme il faut, le donc on permet à l'Arabie Saoudite de revenir.
Karine, est-ce qu'on imagine, justement, Abu Dhabi, ils sont installés avec Manchester City, donc depuis 2008, ils ont créé une sorte de galaxie autour
City
d'eux.
Group,
ils ont le City Group, ils ont une dizaine de clubs, dont les Stack, le club de Troyes, ils sont en Ligue 1 en ce moment. Et ils font souvent le up and down.
Ils ont le club de Melbourne,
New York City, bien sûr, Yokohama, Montevideo, on a cherché, bon, il y en a un peu sur tous les continents. Et là, il y a des rumeurs que ce fonds pourrait aussi racheter, ce que nous disait Matteo Cioffi, l'Inter Milan, il y avait même des rumeurs autour de l'OM, et voir un club brésilien, c'est-à-dire suivre un peu ce que font les autres.
Mais après, il faudra voir s'ils ont envie qu'il y ait un vrai savoir-faire, parce que effectivement, Citigroup, c'est énormément d'argent, mais c'est quand même, on peut le reconnaître, un savoir-faire.
Oui.
Quand ils ont décidé de prendre Manchester City, ils avaient préparé en amont quand même l'arrivée de Pep Guardiola, et c'est sûr que Pep Guardiola, ben, il n'arrive pas en deux jours, donc ils avaient pris déjà des anciens du Barça, des proches de lui, pour grandir, pour former une école et une manière de jouer, parce qu'à Manchester City, toutes les équipes, de la plus petite jusqu'à l'équipe professionnelle, jouent de la même façon. Et c'était un projet d'envergure, et c'est pas quelque chose où on se dit City va partir en 2024, par exemple. Parce que nous, on est obsédé avec cette histoire. Là, je parle du Qatar et du PSG. On a toujours peur que finalement le Qatar s'en aille en.
Peur, je sais pas, mais on imaginait.
En 2022,
après la Coupe du Monde.
Alors que par exemple, au niveau du Citigroup et d'Abu Dhabi, on n'a pas ces craintes-là. Donc ouais, après.
C'est pas le même enjeu.
Je sais pas quelles seront les volontés et les objectifs de l'Arabie Saoudite, mais déjà, rien que par rapport à ces États. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Le Citigroup et pour l'instant le PSG n'ont pas du tout la même image au niveau du foot. Et on se pose moins de questions sur le Citigroup d'ailleurs.
C'est vrai, je rappelle aussi que City, en tout cas les dirigeants d'Abu Dhabi, sont arrivés en 2008 à City. Pep Guardiola est arrivé en 2016 sur le banc. Comme quoi, ça a pris du temps. Alors après, il y a eu d'autres personnes avant. Il y a eu Mancini, il y a eu Eriksson, il y en a eu d'autres. Absolument. Donc...
Et des titres glanés par ces grands entraîneurs.
Absolument. Oui, mais ça a quand même mis du temps à se mettre en place avant, justement, ne serait-ce, je ne parle même pas de titre, mais de pouvoir jouer la Ligue des Champions, où souvent il y a une année comme ça où Tottenham avait arraché à la dernière journée la place de Champions à Manchester City. Donc ça a mis du temps déjà, ne serait-ce que de jouer la Champions League.
La question, c'est est-ce que finalement ça peut être un danger pour le football de dépendre de l'argent d'un État et tout ça, comme le PSG actuellement dépend de l'argent venant du Qatar, comme donc Manchester City. Et on pense à l'Allemagne qui, elle, pour l'instant, est un îlot totalement différent, qui a un bon football, qui gagne des trophées, comme avec le Bayern Munich.
Qui est bien géré, mais
qui fait travailler finalement les influenceurs et l'argent de son propre des entreprises.
C'est la culture du foot
allemande.
En Allemagne, on tient compte à la fois du public, des supporters.
Oui, il y a des années d'attente pour être abonné dans certains stades.
Il y a les sponsors, il y a aussi le rôle des lenders. C'est représentatif d'une région. Et puis, Le foot allemand aussi a connu des faillites. Hein. On parle, Dortmund a failli disparaître, ouais. Hambourg a failli disparaître. Ouais. Donc eux, ils sont l'expérience des grandes faillites. Et ces clubs-là, c'est des clubs historiques.
Schalke est pas mal aussi là en ce moment.
Voilà, ouais. Donc on sait même pas jusqu'où ça va descendre.
Oui, absolument.
Donc ils ont l'expérience en fait de ce qu'il ne faut pas faire et ils en sont là. Et alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils le font en acceptant de ne pas gagner de titre. C'est un peu la fameuse phrase de Rummenigge quand il voit Tapie soulever la coupe en 93. Il dit « je ne veux pas gagner de cette façon-là ». Et quitte si on doit attendre encore 2001 pour gagner notre quatrième Ligue des Champions, on attendra 2001. Mais c'est notre mentalité.
Juste quand même sur cette vision parfois qu'on a de l'investisseur étranger alors qu'il vient du golf avec l'aspect sulfureux, pas que sulfureux puisque c'est un fait. Hein. On a vu évidemment ce qui s'est passé avec certains actes de la part du gouvernement saoudien. Mais je rappelle que les Anglais eux-mêmes, certains investisseurs anglais, se sont loupés. Mike Ashley en est le dernier exemple justement avec Newcastle. Et il y a beaucoup d'investisseurs anglais. En fait, certains auraient voulu que Newcastle soit repris par des Anglais parce que Newcastle, c'est un nom quand même important en Angleterre. Ouais. Sauf que... Mais il n'y a pas tant d'investisseurs que ça qui peuvent se permettre de dépenser plus de 300 millions d'euros pour déjà ne serait-ce qu'acheter le club et ensuite mettre les sommes d'argent suffisantes derrière.
Il y a une surenchère permanente là aussi, Salim. Peut-être qu'un investisseur plus modeste ferait une bonne équipe de milieu de tableau
Mais les supporters n'attendent pas ça. Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi une hypocrisie totale de la part des supporters. Aujourd'hui, par exemple, en France, tous les supporters qui n'aiment pas le PSG vous disent c'est un scandale, c'est un club État. Mais ils rêvent tous...
Même Marseille, l'adversaire, voudrait avoir ça, bien sûr.
Ils rêvent tous que leur propre club soit racheté par un Saoudien.
Peut-être pas tous.
Oh ben, globalement,
c'est-à-dire que... À Marseille, ils attendent que ça.
À Marseille, là, mais hier soir, j'étais notamment au match des héros, mais j'ai rencontré des gens qui me disaient, mais c'est fait, mais bien sûr, les Saoudiens qui viennent d'acheter Newcastle, ils nous ont aussi racheté. Et les mecs étaient sûrs d'eux, et ça allait être annoncé en janvier, ça devait être déjà annoncé en mai, etc. et tout. Donc il y a quand même une hypocrisie. Les supporters veulent que leur club gagne et ils sont pas très regardants effectivement sur.
Mais est-ce que les États ne doivent pas être regardants alors?
Quels États? Les États qui accueillent ou les États qui investissent?
Les États qui accueillent, comme le gouvernement anglais, comme le gouvernement français.
Vous l'avez bien vu, on l'a bien vu avec le Qatar, c'est parce qu'il y a eu l'entremise de Nicolas Sarkozy. Mm-hmm. C'est toujours les pouvoirs publics, c'est toujours
S'il disait qu'il part du PSG, ça, ils auraient peut-être la trouille, les dirigeants, qu'ils s'en aillent aussi
Après, ça peut créer des situations inextricables.
C'est ça, parce que c'est un peu le pied dans la porte.
Ah ouais, non, mais après, les Qataris, ils s'en vont en 2022. Bon, bah, le PSG sera en faillite.
Mais après, évidemment, on en a fait moins, mais à l'époque, quand Grenoble est repris par des Japonais, derrière, il y a quand même un drame local.
Absolument.
Alors, évidemment, on va dire c'est que Grenoble, mais enfin, il y a des Japonais qui sont arrivés, qui ont promis le Monts et Merveilles.
Dramatique.
Et qui sont partis et qui ont laissé le club en ruine. Bon, c'est pas Paris, mais c'est tout aussi important.
Et Chinois, Sochaux, mais
justement,
Auxerre,
d'où est-ce qu'il faudrait pas que les États encadrent ça et ça serait peut-être.
Mais le problème, c'est que si on fait ça, certains de l'extérieur vont dire, mais est-ce que les États ont à dire leur mot sur des clubs sportifs, des clubs de foot où il y a des millions d'euros.
Les investisseurs, pas sur les clubs, sur les investisseurs.
Eh ben là encore, ça restera quand même en relation avec le club en question et on se dira, mais attends, l'État, il a autre chose à faire que se mêler d'un club, de l'histoire d'un club de foot.
Bon, peut-être. On verra ça et ça sera sûrement à suivre.
On
ce
a
dossier.
Des choses à dire, j'ai l'impression sur ça.
Hein. N'est-ce pas hein. Je pense que le dossier et le débat ne sont pas clos. On continue, on va parler remontada.
Ah
remontada, de l'espagnol remontée.
Remontada et exploit pour le Barça.
Sport, remontée de score inattendue permettant à l'équipe qui perd d'emporter la victoire dans un match de football alors qu'il y avait un grand écart de points entre les deux équipes. Par extension, victoire inespérée d'une équipe ou d'un joueur lors d'une compétition, quelle qu'elle soit.
Sera recordada como la remontada.
Eso es historia.
La remontada, on sait tous le dire, on sait tous ce que ça signifie. Le 8 mars 2017, en effet, le PSG allait à Barcelone disputer un huitième de finale. Retour de Ligue des Champions en ayant remporté le match à domicile et de manière magnifique, 4-0. On se disait, la qualification, ou eux se disaient surtout, sera facile. Mais dans le foot, tout est possible, même les retournements de situation. Et ce soir-là, donc, le Barça de Messi, Neymar, Suarez et leurs copains allaient infliger un inimaginable 6-1 aux Parisiens. Et c'est peut-être ça qui vous a donné l'idée de faire un livre sur les remontadas, Chérif ?
Il y a déjà ça, et puis c'est surtout que dans la foulée, il y a eu beaucoup de remontadas.
Alors dans la foulée, mais en fait, dans la foulée, dans les deux sens, parce que vous avez remonté aussi aux origines. Oui. D'abord, qu'est-ce qui vous paraît, pour vous, la meilleure traduction de ce mot espagnol, qui théoriquement, sans parler foot, ouais. c'est remonter, quoi. C'est une remontée. Alors, il y en a, j'entends, et en lisant votre livre, on pense à renversement, on pense à renversant, c'est ce que dit d'ailleurs Didier Roustan, et aussi retournement légendaire que vous utilisez.
En fait, à la base, c'est un mot courant du langage espagnol. Et en fait, j'ai demandé à des journalistes espagnols, mais ça remonte à quand ? Est-ce qu'il y a un jour un match précis où on a... Il m'a dit non, c'est dans le langage courant, les remontadas. Alors, on ne l'entendait pas tout le temps, parce que des remontadas, il n'y en a pas 15 000 non plus. Mais c'était courant. Et dans chaque pays, en Angleterre, c'est fight back, comeback. En Italie, il y avait rimonta. Donc, c'était... Voilà, ça ressemble. Il y a un mot allemand, j'ai oublié parce que j'ai du mal à le prononcer.
Et en français, on n'avait pas de mot.
En français, on n'avait pas de mot. On avait renversement. Nous, en France, on a beaucoup de superlatifs. En fait, on a beaucoup de superlatifs. Et le but de mon livre, tel que j'ai qualifié les remontadas, c'est quand il y a trois buts à remonter.
Voilà.
C'est pour ça, il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi tu n'as pas mis le France-Allemagne de Séville en 82, le Manchester United-Bayern en 99?
Les deux buts de raison.
Il n'y a qu'un but ou deux buts à remonter.
Bien sûr.
C'est pas une remontada. Mmh. Une vraie remontada, enfin bon, qui a du sens, que ce soit un match sec ou un match aller-retour, c'est quand il y a trois buts à remonter.
Vous remontez quand même... Alors, vous parlez du Real Madrid, en fait, l'époque du grand Real Madrid, et notamment la première finale contre le Stade de Reims. Carlos Bianchi était ici hier. Reims. Et là, il y avait eu un résultat de 4-3.
Ouais, ils avaient remonté deux buts. Mais par contre, on avait déjà...
En Espagne,
voilà, c'est ça. Mmh. Et en fait, c'est aussi ce qui a créé la mythologie de la remontada. Parce qu'en fait, elle est très, très, très accolée au Real Madrid. Parce que le Real Madrid, déjà, il y avait cette première remontada, c'est la première victoire en Ligue des Champions, en 56. Et ensuite, tout au long de leur histoire, dans les années 70, dans les années 80, ils ont fait des remontadas, mais spectaculaires. Bon, j'en ai mis quand même deux, parce qu'ils en ont fait tellement. Et dans n'importe quelle compétition, avec des trucs, mais désespérés, on sait qu'ils vont pas se qualifier. Ils prennent 5-1 à Mönchengladbach, ils arrivent à gagner 4-0. Ils prennent, pareil, 4-1, mais ils prennent un but, là, c'était dans les années 70. Et c'est eux qui ont vraiment marqué, et ça fait partie de... Quand on dit que le Real est le plus grand club au monde, quand on regarde un peu l'histoire européenne, il y a une mystique. Et dans cette mystique, il y a les remontées spectaculaires. Et il y a la fameuse phrase de notre ami Juanito. Alors Juanito, c'est un grand joueur emblématique du Real des années 80. Lui, il a carrément édicté les directs de la remontada. Premièrement, on est dans le couloir. On regarde les adversaires dans les yeux. On les impressionne. On arrive, on demande le ballon. On demande pas, on change pas de camp, on demande le ballon. Le premier tir, ça doit être pour nous. Le premier taquet à l'adversaire, c'est pour nous. Il les a écrits. Mmh. Donc,
le contexte.
Voilà. Et sa phrase célèbre, c'est 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Et c'est vraiment le truc, voilà. C'est comme, ici, c'est le Chaudron à Saint-Étienne, enfin, tous ces trucs. Ici, c'est Paris, enfin, bon, bref.
Karine, une remontada pour vous, qu'évoque le mot?
Bah, c'est un bonheur immense et une claque énorme, en fait. C'est les deux,
parce qu'en fait... Un peu des frissons pendant un match,
c'est ça? Oui, dans tous ces matchs, on a évidemment la peur qui continue d'alimenter certains supporters, par exemple du PSG. Et puis, le soir du fameux 6-1, t'as les supporters barcelonais qui se disent c'est l'un des plus grands moments de notre vie. Sauf que depuis, ça s'est quand même inversé, parce que Barcelone a vécu des remontadas. Et depuis, ils sont eux-mêmes hantés par cette possibilité de subir à nouveau des remontadas. Donc c'est la folie. Mais pour moi, en fait, moi, ma première remontada, celle auquel je pense, alors qu'à l'époque, on disait pas du tout remontada, mais c'est le 5-4 de Roland Courbis.
Bien sûr.
Et évidemment. C'est vrai que moi, ce qui m'énerve, c'est quand
Montpellier.
Voilà,
OM
c'est
Montpellier.
Marseille est mené 4-0 à la mi-temps. Roland, en plus, dit à Loulou Nicolin, donc,
qui est
le boss de Montpellier, on va gagner 5-4. Et effectivement, seconde période, il y a un 5-4. Et ce match, pour moi, est dingue.
Eh ben, on va l'écouter un extrait, évidemment.
Troisième journée du championnat de France de football, Marseille, Montpellier avec une grande, grande ambiance. Bonne sortie de Sylvestre avec ce ballon récupéré par Gravelin en profondeur pour Bakayoko qui va se présenter seul devant Porato. Bakayoko et 4-0. L'effondrement dans la défense montpelliéraine. Robert Pires a fait la différence. Ah, c'est hallucinant. Laurent Blanc qui est passé tout près avec ses têtes face à Martini. C'est...
Pénalty inscrit par Laurent Blanc.
Bien sûr.
Un truc, effectivement, terminé par un pénalty en plus pour avoir un score pareil.
Et c'est affolant, le quatrième but de ce match, le but du 4-4, est marqué par Eric Roy, une remise de Fabrizio Ravanelli. Eric Roy que je côtoie régulièrement le week-end. Eric Roy, il a une carrière sympa, Marseille, Sunderland, tout ce que vous voulez. Mais il me dit, ce moment-là est dans ma tête à jamais. Parce que c'est le contexte, c'est le public, c'est...
Il est dans un état second.
Absolument. Et d'ailleurs, on voit même, j'ai presque envie de dire, le visage des joueurs. Le 5-4, quand Laurent Blanc est l'arrêt devant les tribunes avec à ses côtés Pires et autres. C'est vrai qu'il y a des images où ils sont dans un état second, comme les supporters d'ailleurs.
Et puis ce qui est dingue, c'est qu'en plus, alors souvent, bah, les entraîneurs, les joueurs bluffent, une fois qu'ils marquent, ils te disent toujours, non, mais mon entraîneur m'avait dit que j'allais marquer quand j'allais rentrer et tout. Mais la scène de Courbis qui parle à Loulou Nicolas, elle a été filmée,
on la voit.
Dieu sait que Roland peut être un bluffeur, mais il l'a réellement dit. Et
Nicolas qui se marre avec Messi. Les deux, ils se marrent.
Et c'est incroyable. Il y croyait, Roland. Et je pense que le discours qu'il a eu à la mi-temps. En tout cas. Et je pense que le discours à la mi-temps a dû aussi les aider à aller vers cette remontada complètement.
Ah, c'est plus que trois buts. Pour vous, remontada, c'est quoi, Salim?
Oui, en tout cas, les sensations et les sentiments que Karine a évoqués, c'est ça. Hein. C'est une peur, c'est une crainte. Et finalement, une joie intense, c'est même une folie.
Et puis même si on n'est pas supporter, on est estomacé.
Moi, ça me fait penser. Alors, dernièrement, enfin en Coupe d'Europe, on a vu deux trois dernières saisons assez dingues en Ligue des Champions quand l'Ajax mène 2-0 face. Désolé, shérif. L'Ajax mène 2-0 face à Tottenham et Tottenham avec Lucas Moura. En plus, Lucas Moura, c'est-à-dire le joueur, j'ai envie de dire
remplaçant
qui va réussir l'impensable. Ça fait partie de ces histoires incroyables. Ou même en Ligue des Champions, la même saison. Je rappelle le Barça qui gagne 3-0 à l'aller contre Liverpool.
Avec un doublé de Messi.
Et la chaleur d'Anfield. En plus, Liverpool est... un rapport charnel avec ses histoires. C'est vrai que Chéri, c'est pas très radiophonique, mais il est en train de me montrer ses photos de l'Ajax et ses joueurs dépités.
Les trois joueurs
ils sont dépités.
Au sol,
il a été marqué. Ouais, il était comme ça, je pense. Il était comme ça dans cette année. Mais c'est vrai que Liverpool, en plus, a une histoire charnelle. Hein. 4-0 au retour.
Liverpool aussi.
Et le Liverpool-Milan, pareil. 3-0, 3-3. Enfin, ça fait partie de ces histoires dingues.
Parlez-moi juste d'un match, parce qu'il y a un match africain dans ce livre, et c'est important. C'est un Angola-Mali à la CAN. 10 janvier 2010. Huitième de finale.
Il y a l'Angola qui mène 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. C'est le premier match de poule. Hein. C'était pas un match. Mais quand on voit le match, ce qu'il y a de fou, c'est qu'en fait, les Maliens, ils sont pas mauvais. C'est simplement qu'ils encaissent des buts.
Jusqu'à la 74e minute, ils encaissent.
74e, voilà, c'est ça. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que bon, il marque, hein, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, il faut.
Oui, Sédou Keïta, d'abord, 79e, après Frédéric Kanouté, voilà. Après Sédou Keïta, et après Moustapha Yatobaré.
Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'en fait, il reste méthodique, il continue à attaquer, mais il balance pas devant, hein, c'est pas, on va balancer dans la boîte, et puis quelqu'un va mettre de la tête et tout. Non, ils sont méthodiques, ils s'écartent sur les côtés, on fait un centre. Et comme je le dis, mais c'est, ce qu'il y a de beau, c'est qu'en fait, en Afrique, le temps n'a pas de limite. Ils ont pas la même conception du temps que nous. C'est, tout s'arrête. On reste, on y croit encore de toute façon. Hein, c'est le match n'est pas fini. C'est
Il reste un quart d'heure
et le temps se dilate. Et là, on revient à la phrase de Urbanito, 90 minutes, c'est très long.
Et finalement, ils vont se qualifier.
En plus, il y a pas énormément d'effusion. Bon, évidemment, ils sont contents.
L'entraîneur, oui. Alors, c'est un huitième de finale, mais c'est l'entraîneur des Palancas Negras là qui dit.
Jamais vu ça de ma vie.
Voilà, exactement. Il en revient pas encore d'avoir été retourné comme ça en 15 minutes, quoi. Bon, ben voilà. Pour ceux qui aimeront les frissons des Montada, il y a ce beau livre donc signé de notre confrère Chérif Guémour aux éditions Larousse. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. C'est toujours trop court, je sais.
Bien trop court.
Merci d'avoir participé aujourd'hui. On se retrouve demain, chers auditeurs, pour le Café des Sports hebdomadaire. Merci à tous.